Vous écoutez On lit pour vous.
La journée mondiale sans tabac. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 31 mai 2026 dans La Presse. Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Mangeons un céleri pour célébrer cela. Au Québec, le tabac ne fait plus un tabac depuis un bon moment. On dit souvent que tout était mieux avant. Dans ce cas-là, tout est beaucoup mieux qu'avant. C'est fou combien notre monde a changé en quelques années. Combien l'air s'est purifié. Mon père était un grand fumeur, comme la plupart des hommes de son époque. J'ai grandi dans une maison emboucanée. Pourtant, mes souvenirs ne sentent pas la fumée. C'était tellement accepté qu'on ne s'en rendait pas compte. Notre odorat était immunisé. Mon père fumait dans toutes les pièces de la maison. Il fumait dans la voiture, les vitres montées. Ça ne nous importunait pas. On n'en faisait pas de cas. C'est à peine si on le remarquait. Fumer, c'était comme respirer. C'est bien pour dire. Nos idoles fumaient allègrement. René Lévesque en grillait une durant ses points de presse. Guy Lafleur s'allumait une clope entre la deuxième et la troisième période. Ça ne l'empêchait pas d'allumer la lumière rouge derrière le gardien adverse. Les publicités de marques de cigarettes allaient jusqu'à dire que fumer était bon pour la santé. Ça détendait. À la fin d'un souper, lorsque la visite commençait à penser à s'en aller, mon père disait « Pars pas tout de suite! Fume, fume, fume! » Fumer était un lien social. On crousait en disant « As-tu du feu? » Personne ne répondait encore « Non, mais j'ai du beurre de peanut. » Tout le monde avait des allumettes et les passions s'embrasaient. Pourtant, dès le milieu des années 1960, l'Amérique du Nord commence à être sensibilisée au danger de la nicotine. Un rapport du médecin en chef des États-Unis affirme que la cigarette cause le cancer du poumon. C'est un peu angoissant. Pour déstresser, mon père se met à fumer des matinées extra douces. Ça ne peut pas être nocif. C'est extra doux. Ça va bien aller. Ça prend encore une vingtaine d'années et l'arrivée d'une nouvelle génération pour que la cigarette ait mauvaise réputation. Pour que la fumée secondaire devienne prioritaire. Durant la décennie 1980, les enfants prient leurs parents d'arrêter de fumer. Le lobby anti-tabac prend de l'importance. On commence à trouver que la fumée ne sent pas bon. On crée des sections non-fumeurs dans les avions. Rangée A à M, on peut fumer. À partir de la rangée N, pas le droit de fumer. Comme si la fumée savait son alphabet. C'était n'importe quoi. Mais les habitudes se mettent à changer tranquillement. Mon père ne fume plus à table, mais il fume toujours en lavant la vaisselle. Si quelqu'un est vraiment incommodé, il va sous la hotte. C'est à la fin du 20e siècle que le gouvernement du Québec décide d'écraser pour de bon, en adoptant la loi sur le tabac. Progressivement, on interdit l'usage de la cigarette dans les endroits publics et les bureaux. Fini les pubs d'Export A et de Dumouriez à la télé. Des photos de cancer ornent les paquets. Lucky Luke se met à téter un brin de paille. Mon père ne fume plus depuis peu. Son emphysème ne lui donne pas le choix. Le 20 janvier 2000, il s'éteint. Sans aucun regret. Durant des années, on a tenté de le convaincre d'arrêter. Il répondait toujours « Faut bien mourir de quelque chose ». C'était un homme d'un autre temps. Le temps insouciant des fatalistes. Le temps où les risques, on n'essayait pas de les éviter. On les prenait, en paquet. On roulait en voiture pas attachée. Il n'y avait pas de salade dans les fast-foods. On allait à l'école les jours de tempête. La santé n'était pas une religion. Parce que la mort n'était pas la fin. Il y avait l'éternité après. On y croyait. Maintenant, heureusement, on est prudent. On fait attention. On vit plus longtemps. Mieux vaut s'éterniser ici-bas. C'est plus sûr. Quel progrès! Souvent, la société fait du surplace. En environnement, en éducation, en justice, on a l'impression de ne pas avancer. Quand on réussit à aller de l'avant, il faut s'en féliciter. La collectivité peut s'améliorer. Notre rapport avec la cigarette l'a prouvé. Malgré tout, la partie est loin d'être gagnée. On fume encore beaucoup trop. Et la popularité du vapotage chez les jeunes est inquiétante. Ce n'est pas parce que ça va mieux que ça ne peut pas aller moins bien. 8 millions d'humains mourront en 2026 à cause de ce fléau. La Journée mondiale sans tabac est là pour que l'on reste sur nos gardes. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le tabac qu'il n'est plus là. En terminant, il faut que je vous avoue une chose. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais quand je vais quelque part et que je hume l'odeur de la cigarette, j'aime ça. Ça me rappelle mon papa. Ça me rappelle surtout qu'il est parti trop tôt. Bon céleri, les amis! C'était la Journée mondiale sans tabac. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 31 mai 2026 dans La Presse.
ChatGPT. Je n'ai plus confiance en mon prof. Un texte de Sébastien Houle, paru le 13 mai 2026 dans le Nouvelliste. Comment éviter que l'IA ne reproduise ou n'amplifie les inégalités existantes? Comment inscrire l'usage de cette technologie dans une vision de justice éducative et d'équité? Demande notamment Anne-Louise Davidson, directrice du laboratoire d'innovation de l'Université de Concordia. Ainsi, si l'IA se démocratise et s'immisce dans toutes les sphères de nos vies, l'école reste peut-être le lieu où la révolution en cours soulève le plus de questions. Pendant que les enjeux de plagiat viennent tout de suite en tête, les experts se préoccupent davantage d'éthique et de pensée critique. Il ne s'agit pas de savoir si, mais comment outiller les enseignants à l'utilisation de l'intelligence artificielle, fait valoir Manez Guidi, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. La chercheuse a procédé à une revue d'écrits scientifiques qui se penche sur la question. Sa synthèse tend à démontrer que l'intégration de l'IA dans l'enseignement est principalement abordée de manière cognitive, au détriment de l'aspect affectif qui sous-tend l'émergence de la technologie. On dit que l'enseignant doit connaître l'outil pour qu'il puisse adhérer. Alors que réellement, ce qui émerge de ces études, c'est que l'encadrement affectif des enseignants tout au long de la formation va permettre de réduire leur anxiété, ce qui va leur permettre de se sentir plus compétents face à l'IA et, ellipse, assurer une intégration pérenne de ces outils dans leurs pratiques pédagogiques et une transformation identitaire, critique et éthique. Vaste programme. d'autant que les subventions visant à mettre en œuvre le chantier numéro 3 du plan d'action jeunesse du Québec 2025-2030, celui de l'intelligence artificielle, le numérique et la lutte à la désinformation, sont faméliques, relèvent les experts du milieu. Croisé à la sortie d'un colloque intitulé « La salle de classe polarisée, les défis auxquels sont confrontées les personnes enseignantes », Isabelle Tremblay-Ross, de la FSE-CSQ, confirme que les enseignants se trouvent démunis face à l'arrivée de l'IA. L'IA, on a sondé nos membres, puis ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'en ont même pas entendu parler dans leur école. Ils n'ont pas de consigne à savoir comment l'utiliser. Certains centres de services scolaires ont commencé à établir des politiques, ou des écoles élaborent de vagues lignes de conduite. Mais tout ça en est à ses balbutiements, se désole la syndicaliste. Dans l'absence d'orientation claire, ceux qui ont recours à l'IA pour développer leur matériel pédagogique, même en le contre-vérifiant, ne savent pas trop ce qu'ils doivent déclarer. Les profs nous le disent, il y a des avenues prometteuses, mais il y a très peu d'encadrement, constate à regret Mme Tremblay-Ross. Si l'IA monopolise l'attention sur les changements qui agitent le monde de l'éducation, la polarisation des valeurs et des enjeux est l'autre versant des bouleversements qui s'invitent dans la salle de classe. La doctorante Audrey G. Héon poursuit son parcours académique forte d'un guide pédagogique élaboré dans le cadre de ses études à la maîtrise. Intitulé « La pédagogie du dialogue et des conflits au primaire et au secondaire », le document de 41 pages vise à outiller les enseignants sur la façon d'aborder les questions socialement vives et les enjeux controversés. Mme G. Héon présentait récemment l'état d'avancement de ses travaux. L'idée maîtresse de l'approche pédagogique est celle de la compréhension mutuelle. Elle propose d'accompagner l'élève afin de dépasser la recherche du simple consensus pour plutôt favoriser l'écoute et l'empathie. C'est de travailler l'origine de sa pensée, se questionner à savoir qui on est, nous, en tant qu'individu, pourquoi je pense comme je pense, c'est quoi mon récit de vie qui m'a amené à avoir cette opinion-là, d'apprendre à se connaître soi-même, ensuite apprendre à connaître les autres. La doctorante a touché une corde sensible chez Isabelle Tremblay-Ross, qui ne fait que constater les dommages que la polarisation du climat social engendre parmi les enseignants qu'elle représente. Si des lignes directrices sont inscrites dans les programmes, l'accompagnement est déficient sur le terrain, déplore-t-elle. Il y en a qui le disent, « Moi, c'est trop, là. J'ai 40 ans, je vais me trouver un autre job. » Les syndicats locaux nous le disent, « On a des gens qui partent plus tôt. » On n'a jamais vu ça. Le front de la recherche semble posséder certaines clés pour dépasser les clivages qui nous divisent, pour faire améliorer le climat dans la salle de classe. Encore faut-il que les laboratoires des universités ne deviennent pas d'autres chambres d'écho. La société en a besoin, insiste Isabelle Tremblay-Ross, parce que si les jeunes se polarisent, ça va être encore plus difficile. ChatGPT n'aurait pas mieux dit. C'était ChatGPT, je n'ai plus confiance en mon prof. Un texte de Sébastien Houle, paru le 13 mai 2026 dans le Nouvelliste.
Et si les humains éradiquaient tous les moustiques? Un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir. Les animaux les plus meurtriers ne sont pas les lions, les araignées ou les serpents, mais les minuscules moustiques qui sucent notre sang, nous causent des démangeaisons et nous transmettent des maladies au point que leur éradication fait parfois débat. Les moustiques tuent environ 760 000 humains chaque année, selon des données officielles.
car ils sont les vecteurs d'environ 17 % des maladies infectieuses comme la malaria, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika. Avec le réchauffement climatique, ces insectes gagnent du terrain dans de nouvelles parties de la Terre lors d'été à rallonge, faisant craindre de futures crises sanitaires. L'humanité ne pourrait-elle pas éradiquer les moustiques meurtriers? Et si oui, quel serait l'impact sur l'environnement? D'abord, pas besoin d'éradiquer tous les moustiques. Sur quelques 3500 espèces connues, seules une centaine piquent les humains et seules 5 sont responsables d'environ 95 % des infections chez l'homme, rappelle à l'AFP la biologiste Hilary Ranson, Liverpool School of Tropical Medicine. Les 5 espèces vectrices de maladies ont évolué pour être étroitement liés à l'humain, notamment en se nourrissant et se reproduisant à proximité, explique-t-elle. Leur éradication, tolérable, vu les ravages provoqués selon elle, n'aurait pas d'impact majeur sur l'écosystème dans son ensemble et des moustiques génétiquement similaires mais moins mortels occuperaient rapidement cette niche écologique. Débat éthique. Globalement d'accord, l'entomologiste Dan Peach, Université de Géorgie, États-Unis, juge néanmoins nécessaire d'avoir plus d'informations pour comparer l'éradication à d'autres options. Nous n'en savons pas assez sur l'écologie de la plupart des espèces de moustiques pour nous prononcer avec certitude dans un sens ou dans l'autre. Les moustiques transfèrent effectivement des nutriments depuis leurs habitats larvaires aquatiques vers d'autres zones et servent de nourriture à des insectes, poissons et autres, expose-t-il. Ils pollinisent aussi les plantes, mais ce phénomène n'est pas bien compris et peut varier selon les espèces. Le débat éthique sur une élimination d'espèces vivantes est légitime selon Hilary Ranson, tout en soulignant que les humains en exterminent déjà beaucoup involontairement. Pour éradiquer des moustiques, l'une des biotechnologies en vue est le forçage génétique, qui consiste à modifier un chromosome pour transmettre un trait à tous ses descendants. Des scientifiques ayant modifié génétiquement des femelles du moustique Anopheles gambier, vecteur du paludisme, pour les rendre stériles, ont ainsi éradiqué une population en quelques générations en laboratoire. L'initiative Target Malaria, financée par la fondation états-unienne Gates, prévoit de faire des essais dans un pays touché par le paludisme d'ici à 2030. Elle a connu un revers au Burkina Faso où la junte au pouvoir a interrompu l'an passé un projet impliquant des souches de moustiques génétiquement modifiées mais sans forçage génétique après des critiques dans la société civile et des campagnes de désinformation. Une autre stratégie prometteuse consiste à infecter les moustiques Aedes aegypti avec la bactérie Wolbachia, bloquant la circulation du virus. Cela peut faire chuter leur population ou simplement réduire leur capacité à transmettre la dengue. Pas de solution miracle. Cela soulève une autre question. Avons-nous réellement besoin de tuer ces moustiques? Une étude publiée en 2025 a montré que la libération de moustiques infectés par Wolbachia dans la ville brésilienne de Niterói avait fait chuter de 89 % les cas de dengue. Plus de 16 millions de personnes dans 15 pays sont désormais protégées par ces moustiques sans aucune conséquence négative, a vanté l'AFP Scott O'Neill, fondateur du Programme mondial contre les moustiques. Parallèlement, un autre projet de transmission zéro tente d'utiliser le forçage génétique pour empêcher les femelles Anopheles gambiae de propager le paludisme. Des recherches en laboratoire publiées dans Nature fin 2025 suggèrent que les scientifiques se rapprochent de cet objectif et un essai sur le terrain devrait démarrer en 2030. Le revers au Burkina Faso a cependant montré que ces projets nécessitent un certain soutien politique ou une adhésion des pays où ils sont expérimentés, dit à l'AFP, l'auteur de l'étude, Dixon Wilson Lwetoijera, Institut de santé d'Ifakara en Tanzanie. Plutôt que de miser seulement sur une solution miracle technologique généralement financée par la Fondation Gates, Hillary Rensen plaide pour une solution plus globale contre les arboviroses. Cela impliquerait, selon elle, d'offrir aux populations des pays touchés un meilleur accès aux diagnostics, aux traitements ou à des vaccins plus efficaces. Mais, selon les ONG, les coupes des pays occidentaux dans l'aide internationale depuis 2025 menacent les progrès dans la lutte contre la plupart des maladies transmises par les moustiques. C'était « Et si les humains éradiquaient tous les moustiques? » un texte de Daniel Lawler de l'agence France-Presse paru le 12 mai 2026 dans Le Devoir.
La fin de l'Empire des cœurs. Un texte de Rainer Ricardo, qui est chercheur en relations internationales et spécialiste des relations Nord-Sud et des émotions en relations internationales. Son texte est publié dans Le Devoir du 21 avril 2026. En sous-titre, les États-Unis ne sont plus un modèle à suivre, mais une force à laquelle il faut s'adapter ou se plier. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis se sont pensés et présentés comme un empire d'un genre particulier. Pas un empire de la contrainte brute, mais un empire d'amour et des cœurs, fondé sur l'attraction, l'adhésion et une certaine idée de la bienveillance. Cette image n'a jamais été parfaitement fidèle à la réalité. Les États-Unis ont bombardé des pays, renversé des gouvernements et soutenu des régimes autoritaires. Mais le langage de la promesse du progrès, de la démocratie et de la modernité jouait un rôle essentiel. Il rendait la puissance américaine acceptable, parfois même désirable. Pour une grande partie du monde, les États-Unis représentaient un horizon imparfait, mais tout de même un horizon. Donald Trump est en train de rompre avec cette tradition. Quiconque a écouté ses discours l'a constaté. Dans sa bouche, le langage ne sert plus à décrire la réalité. Il sert à la produire. Les États-Unis seraient incomparables, ses actions relèveraient du jamais vu. À l'inverse, ses adversaires sont horribles, incompétents, lunatiques. Le monde est réduit à une opposition morale élémentaire, grandeur d'un côté, monstruosité de l'autre. Mais ce qui frappe, ce n'est pas le ton de son propos, c'est sa cohérence. De l'Iran au Venezuela, de Cuba à l'Ukraine et jusqu'à ses propres alliés, un même registre s'impose. La menace, la pression, la démonstration de force. Les relations internationales ne sont plus structurées par la recherche d'adhésion. Elles le sont par l'affirmation d'un rapport de domination. Ce basculement est plus profond qu'un simple changement de style, car un empire, quel qu'il soit, repose sur des rapports de domination. Ce qui le distingue, ce n'est pas l'absence de contrainte, mais la manière dont cette contrainte est ressentie. Pendant longtemps, le langage américain suscitait l'adhésion, l'admiration, l'espoir, et un sentiment d'appartenance.
il rendait l'hégémonie américaine tolérable. Le langage de Trump produit autre chose, voire un climat de peur, de défiance et de soumission calculée. Les États-Unis n'y apparaissent plus comme un modèle à suivre, mais comme une force à laquelle il faut s'adapter ou se plier. En ce sens, Trump ne fait pas qu'inventer un nouveau pays. Il en révèle une dimension plus brute, une dimension qui a toujours existé, mais qui était jusqu'ici partiellement couverte par un langage de légitimation. Il ne change pas le fond. Il retire le vernis. Or, ce vernis avait une fonction politique réelle, car la paix internationale ne repose pas uniquement sur des rapports de force. Elle suppose une capacité minimale de reconnaissance mutuelle, ainsi que l'idée que l'autre demeure, malgré le conflit, un interlocuteur. Mais quand la parole cesse d'être un instrument de coopération pour devenir une arme de soumission, c'est cette capacité-là qui s'effondre. Aujourd'hui, deux réponses sont possibles. La première consiste à s'adapter, à accepter les nouvelles règles, à normaliser le rapport de force et à renoncer à la légitimité comme monnaie d'échange. C'est une réponse compréhensible, mais c'est aussi une capitulation tranquille devant l'idée que le monde ne peut être gouverné que par la peur et la force. La seconde consiste à tenir, non par fidélité aux États-Unis, mais par fidélité à ce que l'idée d'un empire des cœurs contenait de juste, indépendamment de celui qui prétendait l'incarner. Les démocraties moyennes qui ont construit leur influence sur la crédibilité de leurs paroles plutôt que sur la taille de leurs arsenaux savent cela. Le Canada, les pays nordiques et certains États du Sud global engagés dans le multilatéralisme ont tous intérêt à ce que le droit international et les institutions internationales comptent encore dans les affaires du monde. L'ordre international qui vacille n'est pas parfait, mais ce qui pourrait lui succéder, un monde où seule la force parle, l'est encore moins. Certes, l'Empire des cœurs survivra à Donald Trump, mais il dépendra de ceux qui refusent de réduire le monde à un simple rapport de force. Fin de La fin de l'Empire des cœurs, un texte signé Rainer Ricardo, publié dans Le Devoir du 21 avril 2026.